BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Un grand bonsoir à toutes et à tous, il est 20h pile en ce mardi soir, un vrai plaisir que de vous retrouver. Bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne, que vous soyez avec nous à la radio ou à la télé, en replay ou en podcast. Avec au sommaire ce soir dans Tech & Co, eh bien on va revenir sur Adobe, montré du doigt par le gouvernement américain au sujet d'abonnements difficilement résiliables. On va rentrer dans les détails dans quelques instants. Voilà, c'est encore un abus de la part d'un géant de la tech. Tiens, quel business model pour toutes ces IA? C'est vrai qu'évidemment, il y a OpenAI, mais il y a aussi Mistral. Il y en a d'autres. Il y a Claude et puis toutes les autres. Est-ce qu'il va avoir assez de business pour toutes ces intelligences artificielles? On en parlera ce soir aussi. Et puis, on s'intéressera au marché des PC boostés par l'IA. À la rentrée, on va avoir dans les magasins énormément de PC boostés à l'IA. Qu'est-ce que ça va changer? On en parlera tout à l'heure avec le porte-parole d'HP qui sera avec nous sur le plateau de Tech & Co. Ce sera aux alentours des 21h15. Voilà le sommaire. Merci d'être là et bienvenue encore une fois à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec ce soir, pour débriefer l'actu, Jérôme Colombin, mesdames, messieurs. Oui, c'est lui. Salut Jérôme.
Salut François, bonsoir à tous.
Journaliste, créateur du podcast Monde Numérique, que je vous invite à découvrir, bien sûr, au moins une fois par semaine, si ce n'est plus.
Voilà,
sur le site Monde Numérique. À tes côtés, c'est Michel Lévy-Provençal. Salut Michel.
Bonsoir François.
Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness. Ça s'est bien passé, ton rendez-vous TEDx à Paris?
Très, très bien passé, on est content. On a fait le plein, on était 2800 personnes avec des super speakers.
Ouais. Oui, puisque tu nous en parlais précédemment, donc voilà, c'était dans les préparatifs. Là, ça s'est déroulé.
T'es un retour après 5 ans d'absence.
Parfait. Vous avez parlé un peu de tech ou pas?
On a parlé un peu de tech, de neurotech.
De neurotech?
Ouais.
On a avec parlé une personnalité.
Dont je ne sais pas si on peut en parler, puisqu'il est en campagne.
Ah oui, donc on va pas en parler.
Politique est en campagne. Vous verrez la vidéo. C'est
voilà.
Un teaser.
Et ça sera dans quelques jours, la vidéo.
Ça sera pour
le replay de ce TEDx. Oui. Et le retour de Frédéric Simotel. Salut Fred.
Salut François, salut à tous.
Et voilà, encore une fois, Frédéric Simotel qui a une très belle mine. Je ne sais pas où tu allais, mais ça avait l'air d'être un petit peu plus ensoleillé qu'à Paris,
oui.
Visiblement, Fred.
Certainement, oui, oui.
Alors, messieurs, pas mal de choses dans l'actu. On va revenir sur les déboires d'Adobe dans quelques instants. Apple qui, évidemment, vous l'avez suivi durant la WWDC, va accélérer sur l'IA, mais accélère assez lentement hein, quand même. Hein. Il passe pas tout de suite, on va dire, la cinquième. On évoquera aussi le Vision Pro qui arrive dans quelques jours en France. Hein. Je crois que c'est début juillet.
12 juillet.
Le 12 juillet, date importante.
Oui.
C'est mon anniv, c'est pour ça.
c'est le faire oublier parce que c'est.
Voilà, le 12 juillet, c'est l'anniversaire, c'est la sortie du Vision Pro, l'anniversaire de François Sorel.
Message.
C'est tout ce que je vous dis, quoi. Voilà, message subliminal. Bon, préparez 4000 balles, hein, quand même, parce que c'est.
Voilà, on attendra la version 2.
on attendra la version 2. Parce que c'est justement ça, il y a une rumeur qui circule en ce moment comme quoi Apple aurait laissé tomber le projet du Vision Pro 2 pour se focaliser en fait sur un Vision tout court qui serait moins cher et sans doute plus populaire. Et encore, c'est pas tout à fait sûr. On parlera aussi de toutes ces intelligences artificielles génératives. C'est vrai qu'on commence à avoir du monde au portillon. Est-ce qu'il va avoir un business pour tout le monde? Hein, est-ce qu'on va pas avoir une bulle, finalement, de toutes ces IA génératives? On en parlera. Jérôme nous expliquera un petit peu comment il a utilisé ChatGPT avec les programmes politiques.
Ouais.
C'est assez drôle.
J'ai benchmarké les programmes avec ChatGPT.
On va voir ce que ça donne.
Est-ce que ça fait changer tes votes?
Ah, je vais te raconter ça.
Bon, d'accord. On parlera aussi de, tiens, justement, d'OpenAI qui veut changer son statut. C'est très important, ça aussi. Hein. OpenAI qui veut vraiment maintenant gagner beaucoup, beaucoup d'argent. On y reviendra. Et puis, si on a le temps, on parlera de ce constructeur de smartphones chinois, Oppo, qui avait quitté la France vraiment avec beaucoup de bruit, hein, d'une manière un petit peu.
Brutale, oui.
D'ailleurs, brutale et pas très. Catholiques, on va dire. Et là, ils reviennent donc après avoir un petit peu fait le ménage chez eux. Là aussi, si on a le temps, on évoquera tout ça. Mais pour débuter, peut-être l'avez-vous suivi, messieurs, dans l'actualité, ça se passe aux États-Unis et c'est Adobe. Alors, on ne présente plus Adobe, éditeur de logiciels qui existe depuis 30 ans,
Photoshop,
minimum.
Voilà,
enfin, voilà, Photoshop.
Lire les lecteurs de PDF.
Voilà, des logiciels de montage vidéo. Enfin, voilà, Adobe, première, etc. Adobe a fait son business sur ces logiciels d'excellente qualité. On en a parlé d'ailleurs récemment avec l'IA, hein, puisqu'ils ils adaptent aussi, ils intègrent l'intelligence artificielle générative dans leurs logiciels. Sauf que là, ils se font rattraper par la patrouille. Et la patrouille, c'est le gouvernement américain qui exige que Adobe remette un petit peu à plat ses conditions d'utilisation et surtout ses, comment dirais-je, les règles qui le lient aux consommateurs. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il est très difficile de résilier un abonnement Adobe sans payer en fait des sommes supplémentaires. Mm-hmm. Ça me fait penser un peu à Canal à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez. Canal, quand on ratait la période où on pouvait se désabonner, on repartait sur un an en fait. C'était terrible. Ça a été mis à plat.
C'est un peu tout ça. Ils ont à la fois les difficultés pour résilier l'abonnement. On n'explique pas clairement les frais si on résilie pas ses abonnements, combien ça peut nous coûter, etc. Et puis le troisième, c'est on nous dit pas, tiens, si vous voulez renouveler ou pas. Non, on nous prévient pas, on renouvelle automatiquement.
Voilà.
C'est un peu dans les grandes lignes ce qu'on leur reproche.
Et les consommateurs sont pris en otage, finalement, parce que, et il y a des témoignages qui sont assez intéressants sur Twitter de consos qui voulaient résilier leur abonnement Adobe et qui n'arrivaient pas à le faire parce qu'en fait, ils ne trouvaient pas la bonne page. Mmh. C'était compliqué. On leur demandait d'appeler un numéro de téléphone, mais dès qu'on expliquait qu'on voulait se désabonner, comme par hasard, la hotline raccrochait. Enfin, des choses assez bizarres, on va dire, et pas très cool de la part d'un grand éditeur de logiciels. Et donc, visiblement, là, le gouvernement américain veut sanctionner.
Pourquoi ils ont franchi une nouvelle étape dans donc c'est la Federal Trade Commission, hein, chambre de commerce, on va dire, américaine.
Oui.
Et en fait, pourquoi ils ont franchi une étape dans les sanctions, enfin vraiment dans les ce qu'ils veulent faire face à Adobe, c'est qu'Adobe, visiblement, a vraiment mis de la mauvaise volonté. C'est-à-dire qu'on dise, bon, c'est mal essayé en tout petit, on l'a tous eu, hein, nos contrats d'assurance sont comme ça, hein, en tout petit dans la ligne, mais c'est quand même indiqué à nous de bien lire le contrat. Là, il y a vraiment eu une volonté de ne pas informer le client, de ne pas lui répondre au téléphone. Donc c'est vrai, c'est ça qui est sanctionné. Enfin, bien entendu, tout ce qui est les difficultés pour résilier son abonnement, mais c'est vraiment la mauvaise foi qui est mise pour répondre aux attentes des clients, enfin de ceux qui voulaient quitter en tout cas Adobe.
Comment on peut expliquer ça d'une boîte aussi, on va dire, respectée, respectable qu'Adobe?
Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir à quel point ça vient d'abord sur Adobe. C'est-à-dire que c'est quand même une pratique qui est courante. Ces systèmes qui font qu'on a beaucoup de mal à trouver la bonne page pour se désinscrire, ce qu'on appelle des dark patterns, c'est-à-dire du design, notamment de services en ligne, qui mettent en avant,
tournent en rond,
voilà, qui mettent en avant la simplification pour s'abonner et qui nous empêchent par plein de moyens de design, vraiment de design,
oui, bien sûr,
de nous désabonner.
Et l'idée, c'est qu'après, on jette l'éponge, et se dit, zut, on le fera demain, après on l'oublie, et puis voilà.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir à quel point Adobe, le premier segment de clientèle d'Adobe, ce sont les designers. Dans quelle mesure ça n'est pas le premier acteur qui est touché, parce que typiquement ce sont les designers leurs clients et qu'ils connaissent parfaitement ces fameux dark patterns et ces méthodes. Donc peut-être que c'est une première étape et que d'autres acteurs dans les mois qui viennent vont aussi être touchés par ce type de sanctions.
Jérôme.
Alors c'est vrai que c'est très bien que peut-être on tape un peu comme ça dans la fourmilière, mais moi j'ai un peu de mal à évaluer l'importance de cette information parce que j'ai l'impression que c'est une pratique marketing contestable, détestable même dans certains cas, mais qui est tellement répandue. Alors peut-être que là ils sont allés très très loin. Allez savoir, est-ce que c'est, je sais pas, un directeur marketing quelque part qui s'est dit, qui a voulu faire le malin en se disant tiens, on va renforcer un peu la procédure pour se désabonner. C'est vrai qu'on a souvent ces mauvaises surprises, mais c'est pas non plus des, je sais pas, c'est pas non plus des affaires d'État. Enfin, et puis c'est amusant parce que je sais pas si vous avez essayé, même Amazon, qui est un peu le roi qui porte le client au nu, essayez de trouver le formulaire de contact. Tout est bien fait sur le site d'Amazon, mais jusqu'au moment où vous essayez vraiment d'envoyer un mail. Et là, c'est un défi. Et là, il faut prévoir du temps et se dire, allez, je vais gagner contre Amazon. Ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai gagné.
Oui, mais c'est vrai que toutes ces
boîtes... Mais c'est très compliqué.
Ouais, est-ce que la question que l'on se pose, parce que c'est quelque chose qui s'adresse plus plutôt, enfin les logiciels Adobe, enfin ceux auxquels on pense, Photoshop, ça s'adresse beaucoup aux créateurs. Est-ce qu'il n'y a pas l'effet IA, c'est-à-dire que les gens, ils ont commencé à avoir une petite vague, plus les Midjourney, enfin voilà.
Et ouais, mais moi, justement, je voulais qu'on aille sur ce terrain-là. T'as raison.
Commence à être un peu meilleur et les gens se disent, tiens, est-ce que j'ai toujours besoin d'un Photoshop? Est-ce que je veux dire la photo, tiens, retouche-moi ça en rouge, en vert, en bleu, et finalement, est-ce qu'ils n'ont pas senti une petite vague de gens qui venaient, tu vois?
Bah après, ça n'excuse pas les méthodes,
donc,
les méthodes un peu.
Mais justement, après, on camoufle, on se fait encore plus difficile à trouver les pages pour se désabonner.
Tu as raison, je pense qu'Adobe a un problème très ancien qui est que ils n'ont jamais réussi à bien adresser leurs deux publics, c'est-à-dire les hyper pros dans les entreprises qui ont des gros moyens, qui ont des grosses consommations.
Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent grâce à Adobe.
Exactement, mais vous avez aussi tous les petits, et quand par exemple vous voyez aujourd'hui ce que propose une plateforme qui s'appelle Canva, qui est australienne, je crois, et qui offre des choses à peu près similaires à ce qu'on peut faire avec Photoshop, de manière beaucoup plus simple d'ailleurs, mais Canva a des tarifs beaucoup plus accessibles, peut toucher vraiment des travailleurs indépendants, des freelances, des petites entreprises. Et Adobe, ils étaient toujours avec des tarifs pas possibles, des offres très compliquées où tu étais obligé de prendre tout ou rien. Et ça, effectivement, ils n'ont jamais réussi à régler ce problème-là.
Et puis là, on parle de Photoshop, mais c'est toute la gestion documentaire qui est en train aussi de prendre un coup avec l'IA, parce qu'est-ce qu'on est obligé d'avoir des champs de données aussi bien. Une fois qu'on a bien rangé ces données avec différents types de fichiers, est-ce qu'on est obligé de se tourner vers des logiciels payants, chers comme Adobe, alors que peut-être qu'avec l'IA, on va réussir à avoir des choses qui, à travers nos requêtes, nos prompts, vont y arriver. Donc, à mon avis, il y a quelques signaux faibles qui disaient, oula, attention les gars, comment faire pour alors être meilleur, oui, mais si on pouvait aussi
empêcher les gars de partir, ça serait pas mal.
Mais fermer les portes.
Ils ont eu un autre souci il y a quelques semaines. Je sais pas si vous en avez parlé dans Tech & Co. C'est par rapport au droit d'auteur et à la captation des œuvres qui permettaient ensuite de créer, de générer des images à la manière d'eux, sauf qu'ils avaient oublié de rémunérer, enfin, ou de prévenir les détenteurs des droits.
Ouais, ça fait beaucoup d'oubli tout ça quand même. Bon. Enfin, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Hein. On leur jette pas la pierre, mais c'était intéressant et amusant de voir que Adobe aussi est sous les fourches codines du gouvernement américain.
Enfin, tous les titres de une de la presse américaine web
mettent en avant
c'est,
ça.
C'est ça. Hein. C'est vraiment.
Toujours aux États-Unis, c'est Apple, bien sûr. La WWDC, c'était la semaine dernière. Vous avez pu la suivre ici même sur BFM Business dans Tech & Co. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en sait un petit peu plus. Là, maintenant, on commence à digérer toutes ces informations. Évidemment, iOS 18 va pousser l'intelligence artificielle générative. Évidemment, il y aura ChatGPT qui va arriver dans Siri. Mais quand on commence à regarder un petit peu les communications un peu plus, on va dire, réfléchies d'Apple, on se rend compte que c'est pas pour tout de suite, tout ça. Et que ça va prendre du temps. Que iOS 18 sortira en septembre, mais il y aura que très peu de fonctionnalités d'IA.
Pas en français.
Voilà, ça sera réservé qu'aux Américains. Et que, éventuellement, en 2025, on aurait d'autres couches d'IA qui pourraient arriver. Et en 2025, donc peut-être dans un an, Siri avec ChatGPT, peut-être en français, enfin, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de grogne et de déception de la part de pas mal de fans d'Apple et même des observateurs tout simplement d'Apple qui se disent mais est-ce que finalement ils étaient prêts? Mais on a l'impression que voilà, au-delà des effets d'annonce, là maintenant ça me fait un peu penser à toutes ces startups où on dit oui je vais pouvoir le faire, mais ils ont rien fait du tout.
Il y a que le PowerPoint qui marche.
Voilà, il y a que le PowerPoint qui marche et puis après les gars, bon, il faut y aller parce qu'on a prévu et on a promis des trucs quand même assez costauds. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Michel ?
Moi, j'en pense que je suis très content parce que j'ai gagné mon pari. Il y a trois semaines, on était sur ce plateau et je disais.
Je me souviens plus qu'on avait parié.
Il va y avoir beaucoup d'annonces, mais ça ne sera pas prêt avant l'année prochaine parce qu'ils sont excessivement en retard. Ils n'ont pas de modèle. Au sens modèle d'IA, ils ont un vrai problème de promesse, c'est la privacy, autrement dit les données ne peuvent pas circuler. Alors ils ont trouvé un moyen en créant ce qu'ils appellent un cloud privé, autrement dit les données vont pouvoir, quand elles ont vraiment besoin d'utiliser ChatGPT, en l'occurrence les modèles d'OpenAI, aller sur un cloud qui serait un cloud ultra sécurisé, mais tout de même ça circule, les données circulent, donc c'est pas vraiment de la privacy. Et dans tous les cas, ils sont très en retard par rapport à Samsung. Galaxy AI existe depuis 3-4 mois déjà, et on le disait, et franchement...
Après, les promesses iOS 18 sont plus intéressantes, je trouve, que Galaxy AI. Oui. Je trouve, il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui ont été présentées. Oui, et comme tu le dis, c'est que de la présentation.
C'est que de la présentation d'abord. Moi, je suis très curieux de voir, même en 2025, les cas d'usage. parce que ce qui a été présenté est évidemment préparé, filmé comme il le faut, avec beaucoup de storytelling comme sait le faire Apple. En 2025, on va voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, clairement, OpenAI est dans une position de force extraordinaire. Entre d'un côté Microsoft et de l'autre côté Apple, ils sont au centre du jeu.
Ah oui, c'est eux qui arbitrent tout ça. Mm-hmm. Jérôme, alors tu as suivi tout ça, bien évidemment, avec beaucoup d'attention. Quelle est ta réflexion sur tout ça ?
Ben, effectivement, je me demande si Apple va pas un peu avoir le syndrome Google, c'est-à-dire que
c'est pas très sympa.
Non, mais par rapport à l'IA, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas le droit à l'erreur.
Hier, on les comparait à WeWork.
Oui, c'est vrai, c'était pas terrible.
En replay,
oui.
Alors, il s'est un peu lâché.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils ne peuvent pas se tromper. Le problème de Google avec l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, elle ne donne pas toujours de bons résultats. Or, Google, c'était un peu synonyme du bon résultat, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de cochonneries qui remontent, mais grosso modo, on avait l'impression que Google, c'était la référence. Et Apple, la promesse, c'est que ça marche toujours très bien, tout est fluide, il y a le respect de la protection des données, etc. Et du coup, entre cette promesse-là, cette image, et puis quand on a le poids d'une entreprise comme Apple, évidemment la moindre marche ratée peut faire très mal. Effectivement, on se demande si implémenter l'IA, ce sera aussi facile à faire qu'à dire.
Avec donc ce délai qui est long, on parle de 2025 maintenant, Fred, pour tout. Oui.
Si vous regardez, c'est pas mal les blogs de toutes les communautés de développeurs, mm-hmm. qui d'un côté se sont dit assez enthousiastes, enfin, quand ils ont vu à chaque fois, comme tous les développeurs, on entend tous les cris dans la salle et tout ça. C'était pas en public, mais on aurait pu les entendre parler sur l'organisation des applications, sur la personnalisation. Ça, ils trouvent ça super. Par contre, comme l'a dit Michel, quand on regarde leurs grosses inquiétudes, c'est autour de la confidentialité des données. Et puis derrière, ils trouvent que quand même, quand ils commencent à rentrer un peu dans le truc, c'est assez complexe, quoi. Ouais. Mettre en œuvre, ils se disent, oula, là, tout ce qu'on nous demande avec des rajouts de bouillard, faut être développeur pour bien suivre tout ce qui se dit dans ce domaine. Ils se disent, ça va pas être aussi évident à mettre en route, surtout avec l'histoire de la confidentialité des données. Et je pense que là, il y a pas mal d'inquiétudes du côté des développeurs. En plus, là, on voit ce retard. On le dit souvent ici, que fait Apple, on les entend pas. Et là, j'avoue que le soufflet est en train de retomber et je pense pas qu'à.
Ils ont des beaux processeurs, ils vont bien trouver un truc à leur faire faire quand même. Ces processeurs hyper puissants, qui sont taillés pour l'IA.
Oui, mais tu vois, moi je me demande si en ce moment, et je trouve que la communication en ce moment de Gemini est hyper forte. Alors, et nous, on est en Inde et on parle en anglais et on parle en 9 langues indiennes. Et mais Gemini, ils mettent un peu le paquet en ce moment. Et je me dis, mais ils devraient tous en profiter, quoi, les Gemini, les Samsung aussi, pour dire bon, attendez, regardez, les autres sont à la ramasse, nous on est en train de vous sortir le téléphone qui traduit, on vous sort dans plusieurs langues les Gemini. Bon, d'accord, il y a quelques petits accros,
sauf qu'ils sont, ils sont vraiment moins bons. Ils sont moins bons qu'Apple en storytelling.
On dit de manger des petits cailloux de temps en temps, mais vous saurez l'écarter quand même. Mais je pense qu'on va. Ce qui va être intéressant de voir, c'est, je crois, est-ce que les autres vont déployer toutes leurs armes marketing pour dire pour une fois qu'on peut taper sur Apple, parce qu'ils n'ont peut-être plus le petit coup d'avance, allons-y gaiement.
Et puis il y a un autre problème, c'est la guerre des prix quand même, parce que Apple est positionné sur un segment luxe.
Oui, tu peux pas
avec
te permettre.
Des prix. Et on peut pas se permettre de pas être au niveau fonctionnellement de ton concurrent, alors que tu es jusqu'à deux fois plus cher parfois. Voilà. C'est pas possible.
Et puis les Chinois, qu'est-ce qu'ils vont attendre? Le marché chinois, les Chinois, ils sont en train de développer leur propre. Et même au Japon, ils ont commencé à avoir des LLM assez performants. Tout le marché asiatique, est-ce qu'ils vont peut-être dire à Apple, écoutez, là, c'est gentil, mais nous, chez nous, on fait mieux et pour moins cher.
Bon. Écoutez, on verra bien tout cela, le calendrier s'il se précise du côté de chez Apple. Toujours chez Apple, autre calendrier, c'est le Vision Pro, qui enfin, après avoir été mis à disposition des Américains, c'était en janvier dernier, si mes souvenirs sont bons, janvier ou février, le voilà qui arrive donc en France, c'est le 12 juillet prochain. Alors c'est le même que celui qui est sorti l'hiver dernier.
Il est francisé.
Il est francisé.
En français maintenant.
Voilà, on dit le Vision Pro maintenant et pas le Vision Pro.
Non, l'interface est en français.
Oui, j'espère. J'espère quand même. 3 990 euros. visiblement, Apple n'en vend pas autant que prévu. Hein. D'après ce que j'ai pu comprendre et en lisant un petit peu ce qui se passe sur les blogs, les usines ont arrêté les précommandes. Enfin voilà, toutes les pièces détachées du Vision Pro sont à l'arrêt. En tout cas, la fabrication de ces pièces détachées, ça veut dire que finalement, Apple n'en vend pas assez. Et donc, la stratégie d'Apple, c'est de vite reprendre un peu le dessus avec un nouveau casque moins cher, moins performant, qui s'appellerait le Vision et qui pourrait sortir, alors on ne sait pas quand, mais je ne sais pas si vous avez vu cette news, mais visiblement Apple mettrait même en pause le projet du prochain Vision Pro 2 qui serait le haut de gamme pour se focusser en fait sur un produit plus abordable pour redonner encore, enfin pour raconter une histoire autour du Vision Pro, parce que là ça devient compliqué quand même.
En même temps, le Vision Pro a toujours été un produit à destination des professionnels pour créer un écosystème d'applications. On ne peut pas sortir un produit comme celui-là sans avoir énormément d'applications. Mmh. Donc, c'était assez logique, surtout à ce prix-là, que tout le monde ne se balade pas le lendemain avec un Vision Pro. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment, mais ça a été aussi la stratégie de Meta, ils vont sortir un produit, cette fois-ci, plus grand public, qui va nous permettre d'utiliser ces fameuses applications qui vont être développées ou qui ont été développées par un certain nombre de professionnels. Moi, je pense qu'il va être beaucoup plus fin, parce que Apple se dirige vers ce qu'ils appellent le thin computing, on l'a vu avec le dernier iPad qui est beaucoup plus fin d'ailleurs. Ouais. Il y a une tendance d'affiner les produits d'Apple.
Même pour les iPhones de 2025, ouais. Visiblement. Donc
c'est une tendance intéressante en plus, parce que c'est quand même un produit massif. Hein. Et puis, le prix, évidemment. 4000 euros, c'est inabordable. Personne ne va... Enfin, bien sûr, il y a des early adopters qui vont se l'acheter, mais c'est quand même très compliqué d'imaginer de mettre 4000 euros dans un produit comme celui-là, sachant que le price point est de l'ordre de 300 à 400 euros chez les concurrents avec un Meta. Hein.
C'est ça le problème, surtout, ouais. Peut-être.
Donc, comment est-ce qu'ils vont faire coup, quid de l'informatique spatiale, parce que c'est ce qu'ils nous ont vendu. Hein. On est sur un nouvel ordinateur.
Ça va prendre plusieurs années.
Et parce que là, si on discutait de ça tout à l'heure avec François en préparant l'émission, là, oui, le Quest Pro, il est à 499. Enfin, voilà, dans les 500 euros, on est quand même.
Et rappelez-vous la petite vidéo de Mark Zuckerberg où il expliquait qu'en fait, c'était pas si bien que ça, Vision Pro, et que le Quest faisait pareil. Mais cette vidéo, elle a fait du bruit finalement. Mm-hmm. Elle a eu des conséquences. Enfin, c'était un truc tourné sur un bout de canapé, mais le message est passé. Et c'est vrai que moi, je serais curieux de savoir si cette option d'un deuxième casque un peu low cost, est-ce que c'était un plan B qui était prévu ou est-ce que c'est un plan d'urgence? Est-ce que c'est un truc, tout d'un coup, quand ils ont vu les chiffres, ils se sont dit, oh là oh là, Tim, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont tout changé, ou alors est-ce que, en grand stratège de la tech, ils avaient déjà envisagé cette option-là? Et ça, personne ne le saura, évidemment.
Et puis, quel est le prix qui pourrait rendre ce type de produit populaire chez Apple? C'est ça le problème.
Quand même dire, la qualité du Quest, le Quest 3, c'est quand même de qualité. Hein, ouais. Quand on le met,
comparé au Vision, il l'avait fait, hein, Zuckerberg. On n'est pas très loin en termes de qualité. Hein. C'est ça qui est dingue, c'est que pour 8 fois moins cher, on a un produit quasiment équivalent
à la batterie et tout ça. Mais c'est là où moi j'imagine toujours ce Vision Pro un peu, tu sais, comme on voit parfois sur certaines vidéos 3D, tout démonté là, tu vois, chaque pièce, tout ça. Et là ils se disent, bon alors les gars, maintenant on a tout ça,
qu'est-ce qu'on
enlève, ou alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on part pas carrément sur les lunettes? On a vu que Meta, ça marchait plutôt pas mal avec Ray-Ban, on commence à en voir. Je sais pas si certains d'entre vous sont allés à Silicon Valley récemment, mais on commence à en voir, en tout cas de plus en plus, et je me dis peut-être qu'ils vont dire ces fonctions-là on va les mettre sur l'iPhone, celles-là on va les mettre sur un ordinateur, celles-là on va en faire des lunettes, parce que le côté on suit quand même Apple depuis pas mal d'années, mais le côté je rétrograde et je sors un produit low cost,
ça passe pas très bien.
C'est un peu l'iPhone SE finalement.
Ouais, remarque, c'est vrai.
Apple a toujours sorti
un succès.
Un produit, bien sûr, beaucoup plus abordable, qui est vraiment dans un segment.
Téléphone, c'est un côté un peu.
Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est que aujourd'hui, le Vision Pro coûte 4 000 $. Quel est le prix cible qu'Apple imagine pour un masque abordable? C'est quoi? C'est 1 000 €, 1 500 €? Enfin, c'est, ça veut dire que tu enlèves 2000 euros d'innovation technologique.
Ça me paraît.
Qu'est-ce que tu fais? Tu baisses la résolution de tes écrans qui à l'intérieur, tu enlèves les capteurs, ils vont être obligés de faire des concessions technologiques.
Tu enlèves les écrans extérieurs, peut-être.
Sans doute, ça, je pense que c'est la première chose qui va être enlevée. Mais de passer de 4000.
6 heures d'autonomie, donc il en reste une.
C'est ça. Mais passer de 4000 à 1000 ou 1500 euros, tu es obligé de faire pas mal de concessions.
Et même 1500 euros.
Beaucoup de produits.
Et même 1500 euros, est-ce que c'est
1500
euros? Donc tu te dis que peut-être, en plus avec le design d'Apple, parce qu'ils sont quand même très forts en design, on peut arriver à un prix peut-être autour de 1000-1200 euros.
Mais Michel, est-ce que
ça vaut le coup?
Mais est-ce qu'à 1000 euros, tu serais prêt à acheter un masque Apple aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est ça, avec les applications qu'on a, probablement pas. En même temps, je suis un early adopter et
on est mal placé, nous, là, tous.
Non, mais on ne va pas mettre 1200 euros pour un produit qui va rester dans un tiroir. Tu vois, c'est pas. J'ai par exemple acheté le Rabbit Air One. Le truc orange.
Ah, c'est toi donc?
Oui, il n'y a que moi. Non, beaucoup de gens l'ont acheté. Bon, ça coûte quand même assez cher, ça coûte 250 ou 300 euros. Je l'ai acheté. Il est dans un tiroir. Ça ne sert à rien, ce machin-là. Mais bon, ce n'est pas 1200 ou 1500 euros.
Ah, tiens, la prochaine fois, tu nous en parleras de ton expérience.
Oui, vous l'amènerez. Vous le garderez peut-être.
C'est vrai?
Oh là là. Ça n'est pas un produit, c'est un bout de plastique.
Bah, la prochaine fois, il faut vraiment que tu nous fasses une petite
preview.
Je suis
là la prochaine.
Tu es là la semaine prochaine?
Oui.
Allez, on se garde ça et tu nous raconteras ton expérience avec le Rabbit.
Non, c'est un truc de geek.
Tu l'avais testé Jérôme,
moi,
à Miami.
Pas très longtemps, mais oui. C'est vrai que c'est pas le truc, tu te dis, oh, bah c'est bon, j'ai plus besoin de mon téléphone. Pas du tout. Mais il y a des choses amusantes, moi, qui m'avaient bien plu quand même. Le concept, je trouvais ça sympa. Et puis, si tu es geek et que tu bricoles, tu peux en faire quelque chose. Tu peux en faire une espèce de sous-produit pour un enfant ou un truc comme ça. Il y a peut-être des idées à trouver. Hein.
Bon. Oui.
Moi, je demande si on va arriver à un truc. Alors, pour les plus anciens, j'arrive pas à me retrouver l'album. C'était, vous savez, cet album d'Obélix qui vend des menhirs. Enfin, d'Astérix et Obélix vend des menhirs et tout le monde se met à faire des menhirs et bref, à la fin, on brade un peu les menhirs d'Obélix. Et je me dis, alors non pas que tout le monde va faire des casques, mais est-ce que Apple finalement va pas essayer de nous trouver un moyen de, pour un iPhone acheté, on va pas,
c'est vraiment pas la politique commerciale d'Apple.
Mais
ça,
non, mais tu vois, mais avoir un package pour essayer de pousser un peu tout ça, un
bundle. Vendu en supermarché?
Ouais, non, pas en supermarché, mais tu vois,
sur les étalages,
une façon de s'en sortir pour pas mettre un prix.
Tu connais mieux que moi Apple, c'est vraiment pas dans leur ADN. C'est vraiment pas dans leur ADN de dire. Samsung fait ça souvent, vous achetez le Galaxy S24, on vous offre la montre, on vous offre des pods ou des trucs comme ça.
Et Apple
ne fait jamais ça. Apple, t'achètes ton iPhone, t'achètes tes AirPods.
Ils sont hypocrites, ils le font faire par d'autres.
Voilà.
Ils le font faire par des distributeurs de temps en temps.
C'est rare quand même.
C'est rare.
T'achètes un produit Apple, on t'en offre un deuxième, c'est rare.
Non, je dis pas offert, mais on te fait un package avec.
Ah oui.
Les jeux vidéo et tout ça. Achetez le nouvel iPhone et vous aurez le cas pour 1200 euros de plus. Vous avez le casque avec tout un bundle, tu vois, histoire de faire passer le prix.
Bon, écoutez, là pour l'instant c'est du fantasme, tout ça on verra bien. On ne sait même pas quand tout ça sortira en fait. Hein. Ça sera peut-être en 2025 ou même 2026.
Ah, le Vision.
Ouais, le Vision, on va dire, d'entrée de gamme. Même si ça fait rigoler de dire entrée de gamme chez Apple.
Ça,
Jérôme, Michel et Fred, vous restez là. Bientôt 20h30, on va retrouver l'Info Écho et on revient pour parler d'intelligence artificielle générative. On va parler aussi des résultats d'NVIDIA qui sont tout bonnement exceptionnel. C'est Étienne Brack qui viendra nous raconter tout ça. Le débrief de l'ActuTech se poursuit dans quelques minutes. À tout de suite. Merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
20h34 avec, pour débriefer l'actu, donc Jérôme Colombin qui est là, Michel Lévy Provençal et Frédéric Simotel. Tiens, que diriez-vous d'un petit coup de Nvidia? Ça faisait un moment qu'on n'avait pas évoqué Nvidia. D'autant qu'Étienne Brack est venu sur le plateau de Tech & Co nous en parler. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François.
Nvidia, encore une fois, pulvérise tous les records.
Au point que c'est devenu, depuis 19h05 précisément, la première capitalisation mondiale devant Microsoft, devant Apple, avec un titre qui n'en finit plus de grimper, encore plus 3% ce soir, à moins d'une heure et demie de la clôture à Wall Street, avec un titre qui est sur un record historique, qui continue d'attirer les foules. Rendez-vous compte, depuis le début de l'année, ce titre Nvidia a été multiplié par 3. Depuis le lancement de ChatGPT, souvenez-vous, c'était en novembre 2022, la valeur a été multiplié par 6. Et donc aujourd'hui, Nvidia pèse plus de 3 000 milliards de dollars. C'est juste énorme. C'est plus que Microsoft, qui est également au-delà des 3 000 milliards. C'est également plus que Apple. Et puis surtout, on parle souvent des 7 magnifiques, mais c'est de plus en plus les 3 magnifiques. Puisque quand vous regardez les autres capitalisations mondiales, eh bien, ça creuse l'écart. Alphabet, la maison mère de Google, pèse 2 000 milliards en bourse. Donc entre la 3e et la 4e position, vous avez plus de 1000 milliards de valorisation boursière, avec les analystes qui n'arrêtent pas de revoir à la hausse leurs perspectives, des résultats trimestriels qui sont à chaque fois stratosphériques. Encore, rappelez-vous, au premier trimestre, Nvidia a dégagé 14 milliards de profits, fois 7 en l'espace d'un an, quand les perspectives d'après Nvidia sont toujours flamboyantes, avec un groupe qui a un monopole énorme, qui a des marges stratosphériques, plus de 50% de marge nette, c'est vraiment exceptionnel. Et puis surtout, une concurrence qui n'est pas là. Intel, qui a présenté sa puce à la rentrée, enfin au printemps plutôt, a déçu les investisseurs. Vous avez Broadcom, certes, qui est dans la course. C'est désormais la 10e capitalisation mondiale, quand AMD promet une puce. Mais d'ici là, Apple et une fois de plus, Nvidia, Nvidia n'arrête pas de creuser l'écart et une fois de plus, bien devant dans cette course à l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup, Étienne. Voilà, Nvidia, première capitalisation boursière devant Microsoft et devant Apple. Alors, c'est une photo, peut-être que demain, les forces
Enfin, ça changent. Fait beaucoup de photos ces derniers mois.
Ouais, ça fait quand même beaucoup de photos. La baraka pour Nvidia, qui... Mais on en parle souvent, c'est l'agilité de son patron fondateur, c'est incroyable.
Il y a 20 ans, il était mort.
Voilà, il y a 20 ans, ça ne valait rien.
En 2013 et en 2000... Ouais, début de l'année 2000, ils sont au bord de la banqueroute.
Ouais, incroyable.
Ouais, mais il y a quelques semaines, j'étais aux États-Unis, on me racontait une anecdote. Et alors bon, elle est imparfaite parce que j'ai pas la source et le contexte exact. Mais en gros, c'était il y a plusieurs années déjà, un étudiant, un chercheur dans une grande université, avait planché sur Nvidia et avait prédit ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire la courbe d'arrivée des IA, etc. Et donc la position d'Nvidia qui faisait que il était promis à ce destin-là en réalité. Donc peut-être que je pense qu'eux-mêmes l'avaient prévu. C'est pas tout à fait une surprise subite, c'est ça que je veux dire.
Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est l'agilité en fait de son fondateur qui avait commencé dans le jeu vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était des chipsets pour le jeu vidéo, pour l'accélération graphique. On a connu ça il y a 30 ans. Et puis après, il y a eu l'automobile. On parlait de voitures connectées, de voitures autonomes.
On voyait au CES des voitures avec le coffre qui était bourré de
chipsets Nvidia.
Il y avait des voitures avec le logo Nvidia.
C'était du GPU, c'était la puissance de calcul. Après, sont arrivés les cryptos. Là encore, Nvidia s'est positionné en disant si vous voulez miner les cryptos, c'est avec nos puces. Et là, l'IA est arrivée. Et encore une fois, ils se sont engouffrés dans la brèche. Et aujourd'hui, ça cartonne parce que l'IA, à défaut de la crypto et des autres technologies comme la voiture autonome, ça fonctionne, quoi.
Moi, je suis un peu partagé parce que d'un côté, ceux qui investissent en bourse disent il faut acheter quand le cours est bas et vendre quand le cours est haut. Donc, dans quelle mesure ils peuvent encore croître.
Ouais.
Ils ont eu, techniquement, il y a eu un split, un plafond, c'est-à-dire qu'ils ont divisé le cours de l'action par 10. Donc il y a des faits aussi, des petits porteurs.
Elle est passée de 1 300 $ l'action à 130.
Donc ils se ruent aussi sur les cours, sur les actions Nvidia. Après, peut-être en même temps que la prochaine étape sera ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le métavers, la capacité d'avoir l'informatique spatiale. Et donc, Nvidia aura aussi une carte à jouer parce qu'il faut faire tourner. C'est univers 3D, c'est de la 3D et en même temps c'est de l'IA parce que il faut beaucoup d'IA pour alimenter ces métavers. Donc je suis un peu partagé. Est-ce que il faut acheter du Nvidia ou pas?
C'est toujours. Mais tu sais quoi, en janvier on se posait. L'action était à 450 $. On se posait la question et là maintenant elle est à 1003.
Oui, Nvidia, ce qu'il faut reconnaître aussi dans l'aventure industrielle, c'est non seulement les technologies, mais c'est aussi les rachats toujours bien ciblés. Et rappelons-nous, ils ont failli racheter. Donc, ils avaient racheté. Alors, c'était Icera, je sais plus, dans les années. Enfin, il y avait deux acquisitions majeures, 2008 et 2013, quelque chose comme ça, qu'ils avaient fait propulser encore. Ils avaient franchi une étape dans le monde du graphisme. Et là, il y a quelques. Je crois que c'était après Covid. Ils voulaient racheter ARM pour. C'était 40 ou 50 millions. milliards de dollars. Bon, les autorités britanniques ont dit non, on ne veut pas parce que ça va faire un... Et heureusement, parce que sinon, ça ferait... Alors là, c'était le marché est écrasé. Oui, donc, ils ont aussi quand même cette vision de voir un peu de bien, à la fois vision de R&D, techno et tout ça, mais de bien savoir aussi cibler leur achat. Et là, je parle des gros achats, mais il y en a plein de petits, dans plein de petits endroits où ils ont été très forts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les sent tout puissants. Alors, on commence à voir quand même des articles dans la presse US, on dit, mais pardon, Jensen Huang est un peu inquiet. Alors, inquiet de quoi? Ben, inquiet, c'est peut-être ça, c'est de savoir, les autres vont pas rester les bras croisés quand même, hein, les AMD, Intel, Qualcomm, Enco. Mais je pense que l'inquiétude, c'est sans doute de voir l'étape d'après. Mmh. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être toujours plus...
En tout cas, c'est le bon pari technologique. Il faut saluer quand même aussi, on va dire, leur architecture technique. C'est-à-dire que les processeurs les plus puissants aujourd'hui, c'est des Nvidia. Voilà. Et ça paye parce que l'intelligence artificielle nécessite beaucoup de puissance. Et pour l'instant, ils ont, j'avais envie de dire, cramé Intel et consorts, quoi. C'est quand même
qu'ils ne soient pas encore fait rattraper par la patrouille environnementale.
Mais bien sûr.
Quand même.
Ah bah,
parce que c'est des... Et moi, je me souviens de la grande époque des cartes graphiques pour le gaming. Où,
ça surchauffait.
Hein. Mais non, mais Nvidia nous présentait des trucs, mais c'était des monstres, c'était indécent. Il y avait deux ventilateurs.
Ouais. À l'époque, on ne se posait pas la question de la consommation énergétique.
Les PC, même les laptops pour faire du gaming, tu avais deux alimentations. C'était un truc monstrueux. C'est vraiment pas éco-friendly. Hein.
Non, ça c'est clair. Mais on le sait. Hein. On le sait de toute façon. Hein. Et il y a des boîtes d'ailleurs qui travaillent sur la frugalité de cette intelligence artificielle générative. Pour on essaie d'optimiser les codes pour que justement il y ait de moins de puissance qui nécessiterait moins de puissance.
Après, c'est de voir par rapport à cette puissance, mais c'est de voir aussi, je pense, qu'il y a une... Est-ce qu'on pourra toujours fournir, hein, puisqu'on voit il faut fournir davantage d'IA. Je pense quand même que Jensen Huang, il ne fait pas partie, ce n'est pas un méchant dans James Bond, et lui aussi peut-être qu'à un moment il se dit donc les gars, est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'intelligence humaine, enfin entre guillemets humaine du futur, et comment modérer ça aussi, parce que je pense que ces gens-là, à un moment,
il a sa part de responsabilité.
Il sent le poids de... Non, mais est-ce que tu vois le poids de l'humanité?
Quand on voit ces keynotes,
ces derniers jours, notamment, je crois, un article de Financial Times qui le cite, il s'inquiète des impacts de l'intelligence artificielle.
Oui, mais excusez-moi, c'est pas un peu hypocrite de faire des keynotes où on dit on va doubler la puissance de nos processeurs, vous allez voir, tout le monde va acheter nos nouvelles cartes, etc. Et d'un autre côté, dire je m'inquiète de la rapidité avec laquelle l'IA progresse. C'est un peu.
C'est bien qu'il... Oui, mais de toute façon, enfin, il n'est pas le seul dans cette situation-là.
Non, bien sûr. C'est le drame de l'IA.
On y va, on sait qu'on va peut-être vers des choses très inquiétantes, mais on est obligé d'y aller, parce que sinon d'autres vont le faire, ça va se retourner contre nous, etc.
Et puis derrière, je pense, on en parlait tout à l'heure pour Apple, il y a l'histoire de la sécurité, de la confidentialité des données, enfin c'est de se dire est-ce que... il faut que je trouve des technologies aussi toujours plus pointues, attaquées par l'IA, attaquées par d'autres choses. Enfin, je pense qu'il y a quelques inquiétudes dans les développements techniques. Au niveau du marché, je pense que le but, c'est de fournir toujours un maximum aux uns aux autres et toujours au bon prix, voire encore plus cher.
Il y a des listes d'attente.
À mon avis, oui, les inquiétudes qu'ils peuvent avoir, c'est ça. C'est, on se pose des questions en disant, mais où va le monde que je suis en train de moi-même de...
construire.
Et puis cette sécurité des données, parce que quand même on voit aujourd'hui en tout un tas de domaines que cette sécurité, cette confidentialité des données, ça nous inquiète tous quand même un peu.
Alors, c'est intéressant parce que ça va nous permettre d'enchaîner très facilement avec notre sujet suivant. C'est cette multiplication en fait des large language models de ces IA génératives. Aujourd'hui, toutes les semaines, on a un nouveau modèle d'IA. Alors évidemment, on connaît ChatGPT qui a été le premier, le plus bluffant. Après, il y a Gemini. Il y a évidemment Copilot, qui est basé sur ChatGPT aussi du côté de chez Microsoft. Il y a Claude. Il y a Stability, il y a Perplexity, il y a Mistral, bien sûr, notre pépite française. Et la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on n'est pas au début d'une bulle de tous ces systèmes d'intelligence artificielle générative, est-ce qu'ils vont tous trouver un business?
Sans compter ceux qui sont beaucoup plus... On voit les photorooms, les Dust, qui sont
plus... Exactement, qui sont beaucoup plus spécialisés. Niches, bien sûr.
Je pense qu'on va trouver leur business model, mais... Bon.
On n'est pas tout jeune autour de cette table. On se rappelle tous de ce qui s'est passé en 99 quand même. Donc en 99, on a eu le même phénomène
avec Internet. Avec le site web.
Avec énormément de services qui n'avaient pas de business model et puis qui se sont aussi beaucoup écroulés. Et en même temps, regardez ce qui s'est passé. Google a mis 5 ans à être rentable, ou 7 ans même. Amazon, ils ont mis 7 ans à être rentable. 7 ans. Meta, je crois que c'est 5 ans. Enfin, Facebook, c'est 5 ans. Donc oui, il va y avoir énormément de gâchis, il va y avoir énormément de boîtes qui vont s'écrouler dans les mois ou peut-être même les années qui viennent. Et en même temps, certains vont tenir parce qu'ils auront assez de fonds et vont décrocher le succès parce qu'ils ont réussi à tenir et à capter le maximum d'utilisateurs. En fait, c'est une course, c'est une course de fonds, c'est un marathon.
Oui, c'est ça. Et tout le monde n'arrivera pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Jérôme.
Après, il y a plusieurs choses différentes. Tu connais ça mieux que nous, Michel. Il y a les produits, l'interface, le chatbot, style ChatGPT, Claude, etc. Et puis, il y a le LLM, c'est le truc qui est derrière. Mm-hmm. C'est le moteur. Et il y a même les moteurs de fondation, c'est comme ça que ça s'appelle.
Oui, c'est fondation. Ou d'action, les large action models, c'est les nouveaux qui arrivent.
Ouais. Et ça, c'est un peu t'as les épiciers en fait, les détaillants qui font, enfin c'est le l'épicerie hein, où tu chattes, tu peux. Et puis il y a ce qui est derrière où t'as la science, t'as les entraînements, t'as les investissements qui ont permis les entraînements, etc. Et donc de quoi on parle en fait quand on dit qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a vraiment tant que ça des modèles de fondation aujourd'hui? Je sais pas.
Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui lèvent beaucoup d'argent.
Mais même si on n'a pas beaucoup, c'est business model, quoi. Quand tu parles avec des grandes entreprises, aujourd'hui, ils ne sont pas en train, et je parle en France, et en avoir eu plusieurs, ils ne sont pas en train de dépenser des centaines de milliers d'euros pour être la partie RAG, là, la partie entraînement. Indexation de fichiers, tout ça. Ils me disent il y a le Copilot, il y a pas grand monde à signer fort parce que 30 euros par utilisateur pour faire un peu mieux son PowerPoint et un peu mieux sa messagerie et puis faire des résumés Teams. Le DG ou le directeur financier au bout d'un moment il va dire bon écoutez vous êtes gentil mais j'ai des stagiaires qui vont me coûter moins cher, ils vont faire des résumés beaucoup enfin bon je plaisante à peine. Mais derrière tu vois, je regardais le modèle Perplexity, 20 euros par mois, $20 par mois pour un utilisateur, ou alors, tiens, quand vous avez une entreprise de moins de 250 personnes, c'est $200 par an. Avec conversion voix-texte, téléchargement illimité de fichiers, nombre illimité de requêtes. $200 par an, avec tout ce que tu vas pouvoir faire derrière, c'est.
Là, c'est du dumping.
Où est-ce qu'ils vont? Alors, il y a SoftBank qui est derrière, il y a.
Perplexity, c'est vraiment du dumping parce que comparé aux offres qui peuvent exister sur le marché, type ChatGPT, ils sont effectivement beaucoup moins chers. Mais pour reprendre ce que disait Jérôme, c'est très juste. Il y a les épiciers et arrivent à distribuer en fait un certain nombre de fondationnalités sur la base de modèles fondation. Les modèles fondation, ça peut être en effet OpenAI avec 4.0.
ChatGPT, c'est l'épicerie pour qu'on comprenne bien.
Oui, d'une certaine manière, c'est l'épicerie. Mais les acteurs qui développent les modèles fondation, c'est-à-dire ceux qui ont mis beaucoup, beaucoup d'argent et qui ont encore beaucoup d'argent, sont aussi en train d'arriver sur le marché des épiciers. Autrement dit, il y a deux effets.
Deux effets qui
vont tuer les épiciers. Le premier effet, c'est que les acteurs comme OpenAI, comme Google, vont arriver avec des fonctionnalités équivalentes à celles des épiciers. Donc, et on le voit au fur et à mesure. Donc, ils vont venir les concurrencer. Et le deuxième effet, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus de fonds que les petits acteurs type Perplexity et les autres. Oui. Donc, ils vont se faire laminer, en réalité, les épiciers. Les vrais acteurs qui vont émerger sont ceux qui possèdent l'infrastructure.
Ou sur les deux, comme OpenAI.
Et la technologie.
Oui, mais là, on parle du business model. C'est comment ils vont gagner de l'argent derrière. Parce que, tu vois, parce que les entreprises, les cas d'usage, c'est sympa. Alors, Copilot, on en avait quelques-uns. Là, on commence à voir dans le recrutement. On a vu GoJob, là, qui est venu ici, qui expliquait comment ils réussissaient à faire des recrutements. Enfin, voilà, on commence à voir des petits cas d'usage. Mais est-ce que
ils ont la stratégie d'Amazon, c'est-à-dire identifier dans l'écosystème ce qui marche bien et l'internaliser et ensuite prendre des positions dominantes. Fred, ça a toujours été comme ça.
Tu ne crois pas que toutes les entreprises vont avoir besoin de LLM de toute façon à court ou moyen terme?
Si, mais à quel prix? Oui, là, c'est moi c'est ça. Je pense que tout le monde en aura besoin, qu'on aura les meilleurs sur Giron.
Il y en a beaucoup qui en ont déjà besoin et d'autres.
Combien les entreprises seront prêtes à mettre sur la table pour financer. Je te dis, pour l'instant, il y en a beaucoup qui me disent, moi, pour 10 000 $ par mois, je suis entièrement satisfait de ce que je peux proposer. Alors, évidemment, les besoins vont monter en régime, mais moi, c'est un peu ça qui m'inquiète. C'est comment tous ces investissements derrière, on parle de milliards de milliards, j'entends pas les entreprises qui disent, nous, sur 10 ans, on va mettre...
monumental quand même. Ouais. Hein,
oui, non,
mais tu vois, par exemple,
là, aujourd'hui,
c'est l'équilibre entre les investissements
en France, on dit,
et le...
Oui, mais on aimerait bien des modèles à nous, on ne veut pas des vôtres.
Ouais.
En plus. En plus. Non, mais j'aimerais bien voir, par exemple, le nombre d'abonnés à Office Copilot, tu vois, qui coûte une fortune, hein, par poste, on le sait.
Qui marche très mal.
Et en plus, il marche très mal.
Et en plus, dans l'usage, les gens commencent à travailler un peu différemment. Enfin, tu vois, c'est
ouais, ça. Ouais. Bon, enfin, bref. Tiens, on va donner la parole à Jérôme. Jérôme qui est assez facétieux, vous le savez, vous le connaissez. Et s'est amusé à demander à ChatGPT ce qu'il pensait des programmes politiques des partis.
Oui, t'as raison de préciser que je me suis amusé parce que c'est sans prétention, aucune prétention ni scientifique ni politique, mais effectivement j'ai voulu un peu benchmarker les programmes. Je raconte tout ça dans un épisode du podcast Monde Numérique qui paraîtra demain.
On va s'empresser de télécharger.
Voilà. Et en fait, pourquoi ? Parce que déjà faut les trouver les programmes. Donc j'ai cherché naïvement des PDF, j'en ai trouvé qu'un sur les trois, mais parce qu'ils seront mis en ligne demain, le 19, sur le site officiel gouvernemental. Mais quand même, ChatGPT, du coup, a pu trouver pas mal de sources intéressantes.
Mais qu'est-ce que tu as prompté,
Très bonne question.
Parce que c'est ça, la clé.
Évidemment, tout est dans le prompt. Je lui ai demandé d'analyser les différents programmes et d'étudier leur faisabilité budgétaire et leur degré d'acceptation ou de rejet par la population.
Par l'humain.
Voilà, c'est ça. Et il m'a sorti un truc pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Franchement, tu lis tout ça, tu as une très bonne idée de l'essentiel des programmes. Et en même temps, il n'y a pas de boule de cristal et il ne prédit pas le futur et il ne me dit pas de manière claire et nette lequel est le meilleur. Mais parce qu'après, j'ai un petit peu plus poussé le bouchon et je lui ai demandé, mais alors, c'est quoi le meilleur programme ? Et puis, je suis même allé jusqu'à lui demander pour qui tu me conseilles de voter ?
C'est vrai ?
Ouais, je ne te dis pas la réponse.
Mais il t'a répondu ?
Il répond des choses à la ChatGPT. En gros, il n'y a pas de surprise parce que tout ce qu'il dit... On le sait si on suit un peu la politique, parce qu'on retrouve le Rassemblement National, ça s'adresse plutôt à ça, le Nouveau Front Populaire à ça, quand pour la majorité c'est plutôt telle direction, etc. Mais il fait une très très bonne synthèse et il te permet d'avoir une bonne idée des choses et il compare aussi, parce que je lui ai demandé de comparer justement la faisabilité économique et budgétaire. J'ai essayé aussi, mais alors c'est là où moi je suis pas politologue, mais j'ai essayé de mettre quelques petits inputs supplémentaires. Je lui ai dit, on a un déficit budgétaire qui est assez costaud. Je crois qu'on est à 112% ou 117% d'endettement du PIB. Et qu'est-ce que ça fait ? Ah bah oui, alors là il me répond, alors celui-là il va mieux s'en sortir que celui-là.
Tiens.
Donc tu vois, c'est quand même intéressant. Donc je trouve que c'est un bon outil finalement pour avoir une vision globale des programmes à la veille d'une élection.
Et est-ce que tu l'as comparé
à d'autres
à des réponses d'économistes. Enfin, bon, voilà, si c'était.
Non, je suis pas allé jusque-là. Non.
De voir s'ils disent à peu près la même chose.
Mais l'analyse est pas très poussée.
Ouais.
Mais après, l'analyse, c'est parce que moi, je l'ai pas très.
Oui, c'est ça.
Je l'ai pas poussé énormément. Voilà, les prompts, c'était assez sommaire. Mais surtout, il a fait ce qu'il sait faire, de la synthèse, du résumé. Il a pas trop halluciné. Je pense qu'il s'est à peu près tenu à ce qu'il a trouvé. Sauf quand je lui ai posé une question, je lui ai demandé si l'intelligence artificielle était prise en compte dans les programmes des trois partis, et il me répond oui, c'est très important. Et moi, je suis allé chercher par ailleurs, j'ai rien trouvé. Donc là, je pense qu'il a complètement déliré. Voilà.
Donc c'était ChatGPT.
C'était ChatGPT.
Qu'on targue d'être un peu woke, enfin dans le wokisme, on va dire, c'est-à-dire que voilà, plutôt pas de gauche, mais disons être plutôt dans cette mouvance. Est-ce que ça se ressent dans les analyses, en fait?
Dans ce que moi j'ai sorti, franchement non. La seule chose, c'est qu'il est très politiquement correct, qu'il veut pas prendre parti, et qu'il me dit, vous savez, vous devez voter selon vos valeurs et vos priorités.
Bien sûr.
Que je trouve une réponse très sage.
Oui, tout à fait. Bien sûr.
Finalement.
Il se fera pas taper les doigts par l'ARCOM, lui.
Non.
Ça, c'est clair.
Non.
Bah, en tout cas, retrouvez demain, donc, dans le podcast Mon Numérique.
Mais c'est amusant ce que tu dis c'est intéressant ce que tu dis parce que Le Parisien a fait la même chose sur des questions médicales. Il y a quelques jours, pour le retrouver, je pense que c'était la semaine dernière, et on voit pareil, ChatGPT ne s'engage jamais.
Non.
Dit, alors première chose, allez voir un médecin. Donc il pose plusieurs questions. J'ai un peu mal des symptômes, ou alors tiens, est-ce que je peux prendre plus de 5 Doliprane par jour? Et à chaque fois, alors premier truc, c'est aller voir un médecin, tout ça. Et puis ensuite, les réponses sont jamais sont jamais tranchées en disant allez-y, prenez un gravillon et tout ira bien.
Allez-y, prenez un gravillon. Non, mais vous allez mieux digérer après.
Ça veut dire que, c'est quand même plutôt bien entraîné. Et puis, deux, là où on a toujours peur de dire, mais il va nous dire de faire n'importe quoi, mais on voit que,
il est très sage.
Il est assez sage, oui.
C'est le fine-tuning, hein.
Ouais.
Il continue à le faire, à ajuster tout ça.
Michel ?
Non, mais ça m'a fait sourire aussi parce qu'il y a quelques mois, dans mon entreprise, on a développé une application qui utilise l'IA pour créer, écrire des discours. Et en l'occurrence, comme on coach à la prise de parole et qu'on fait du TEDx, donc on a demandé à l'IA, à partir de quelques mots-clés, de construire des discours. Et figurez-vous qu'on a pas mal d'utilisateurs. C'est une application gratuite, vraiment pour tester dans un premier temps. On l'utilise évidemment pour nos clients, mais ce n'est pas la même version. On a une version gratuite qui est en ligne. Et on a beaucoup de politiques qui utilisent l'application pour écrire leur discours. Je vous laisse deviner quel est le bord politique qui utilise le plus l'application.
Alors là, suspense.
Je ne le dirai pas. Mais on imagine.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le savoir ou pas?
Écoutez, peut-être sur Twitter, si on me le demande.
Ou alors, si c'est celui auquel je pense, sur TikTok.
C'est possible.
Bon, écoutez, voilà. Menez votre propre enquête.
Beaucoup de mystères autour de ça.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en déduis?
J'en déduis qu'en fait, ils ne savent pas écrire leur discours et qu'ils ont besoin d'une IA pour l'écrire.
Ah, écoute, est-ce que c'est pas un... Attends, moi j'utilise ChatGPT pour
un discours politique, non?
Non, je fais pas de discours politique, mais pour écrire des débuts d'articles.
Oui.
Ou faire ce qu'on fait, ça appelle de l'idéation, quoi.
C'est vraiment le cœur, les idées qu'on retrouve dans le discours. Parce qu'il y a, dans le prompting, il y a quasiment rien, tu vois.
Ah ouais?
Non, c'est assez impressionnant.
Oui. Fred s'en sert bien de ChatGPT. Mais juste.
moi je m'en sers, je fais 3 interviews. Tu sais, quand tu prépares une table ronde? Tu fais 3 interviews des personnes, tu rentres tout ça, tu lui demandes et il fait un premier travail qui te simplifie. Alors, il ne fait pas la table ronde, c'est clair.
Mais il te structure quand même un peu les choses.
Il te structure, il te pré-structure un peu tout ça.
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'écrire des discours politiques avec ChatGPT, c'est...
Et ça, c'est plutôt pas mal.
Ah oui, quand même.
Ouais, c'est... Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Pour en savoir plus, sur Twitter, donc, Michel. Merci beaucoup, Michel. Michel Lévy, Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness. La prochaine fois, tu viens avec ton
Rabbit. Oui, avec le R1, avec le Rabbit, oui.
Allez, tu sortiras du tiroir.
Oui.
N'oublie pas de recharger.
Je charge.
C'est ça, bon. Merci, Jérôme. On
avec
te retrouve
plaisir.
Donc dès demain dans Mon Numérique, bien sûr. À très vite. Et merci à Fred Simotel, qui sera fidèle au poste demain à mes côtés.
Exactement.
Et vous restez avec nous, Tech & Co revient dans quelques instants. On va parler, d'Eurosatory, vous savez, ce salon qui mixe le militaire, la défense et les technologies. On en parle avec mon invité dans quelques instants. Et puis, je recevrai un porte-parole de chez HP pour évoquer le marché des PC qui était un peu faible, mais qui va être boosté par l'intelligence artificielle. Et bien voilà, l'intelligence artificielle, c'est un peu la baguette magique qui refait tout doré, en quelque sorte. Allez, vous restez avec nous dans un instant, c'est Léa Benaïm qui nous rejoint pour le Tech Flash comme chaque soir. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Voilà, dans un instant, on va parler technologie, défense avec mon invité Philippe Audelin. Mais à 21h03, il est temps de nous intéresser à l'actualité tech de ce jour. Ce qu'il faut retenir de cette actualité, c'est avec Léa Benaïm pour le Tech Flash. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous à la une. Je les trouve très graves. Ce sont les mots de Margrethe Vestager sur CNBC concernant les manquements d'Apple face au DMA. La commissaire en charge de la concurrence pour l'Europe a confirmé le lancement d'une enquête à l'encontre du géant américain. La raison, Apple empêche encore et toujours les développeurs de diriger les utilisateurs vers des offres en dehors de l'App Store. Apple risque des amendes pouvant aller jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires annuel, mais elle peut encore y échapper si les efforts sont faits. Et toujours selon la commissaire, 4 autres géants de la tech seraient aussi dans le viseur de l'Europe. Et puis un autre géant dans la tourmente, cette fois aux États-Unis, c'est Adobe qui est ciblé par une plainte du gouvernement américain. La raison, des abonnements dits trompeurs et trop difficiles à annuler. Le ministère de la Justice affirme qu'Adobe a dissimulé des frais de résiliation et ainsi piégé les consommateurs dans des abonnements trop coûteux. Une accusation réfutée par la société qui a bien l'intention de batailler contre la FTC. C'est déjà fini pour Apple Pay Later, le service de paiement en 4 fois sans frais lancé il y a un an aux États-Unis, mais Apple n'abandonne pas pour autant le paiement fractionné. Le géant américain va lancer un nouveau système qui sera directement intégré à Apple Pay. Il devrait être lancé d'ici cet automne dans plusieurs pays, mais pas la France. Pour arriver chez nous, il faudrait qu'Apple arrive à nouer un partenariat avec une banque, ce qui n'est pas encore gagné. En France, Apple ne propose plus le paiement fractionné depuis 2 ans, suite à la fin du partenariat avec la start-up Alma. Également, dans l'actualité, le Cybertruck d'Elon Musk s'attire les foudres des utilisateurs. Après la pédale d'accélérateur, ce sont maintenant les essuie-glaces qui posent problème. Résultat, Tesla a retardé les livraisons de son pick-up électrique, le temps de trouver une solution. Le Cybertruck, qui a pourtant trouvé son premier gros client, la police de Dubaï, vient de l'intégrer à sa flotte. Le véhicule futuriste patrouille désormais avec les autorités locales, même si son rôle est davantage axé sur le marketing et la promotion comme vitrine pour les événements publics. Et on reste dans l'auto avec le test de la nouvelle Porsche Macan électrique. Un test à retrouver dans l'émission En route pour demain, présentée par Pauline Ducamp avec Julien Bonnet. Une émission à retrouver en podcast et en replay sur la plateforme Tech & Co et sur le site BFM Business. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Porsche passe la seconde dans l'électrique après la berline Taycan en 2019. C'est un nom bien connu qui passe désormais au zéro émission puisque c'est le SUV de taille moyenne, le Macan, qui troque définitivement son réservoir de carburant pour une batterie. Enfin, définitivement dans les pays de l'Union européenne, sur d'autres marchés, les États-Unis, l'Asie ou même la Suisse et le Royaume-Uni, la version thermique va continuer à être commercialisée parallèlement à cette version électrique pendant quelques années. Un geste fort tout de même pour Porsche, ce Macan, ça représente un de ses best-sellers, plus de 800 000 ventes depuis son lancement en 2014. Et en fait, la marque allemande, elle ne s'attendait pas à un tel succès pour ce Mini Cayenne. On notera aussi les jantes impressionnantes sur ce nouveau Macan, elles peuvent atteindre jusqu'à 22 pouces. Et sur notre modèle d'essai, on est sur du 21 pouces.
Voilà, En route pour demain, retrouvez évidemment sur la plateforme RMC BFM Play, sur l'appli BFM Business et sur YouTube bien sûr. 21h07, allez, on va parler maintenant technologie et défense avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille sur ce plateau avec beaucoup de plaisir Philippe Eudeline. Bonsoir.
Bonsoir.
Philippe. Vous êtes ingénieur en électronique de formation, vous avez travaillé 44 ans chez Thales.
Oui. Oui.
Votre vie, ça a été les radars, les micro-ondes. Alors pas les micro-ondes où on met sa part de quiche. Non. C'est pas cela.
C'est pas cela. Mais c'est le même principe.
C'est le même. Et oui, c'est le même principe, mais ça a d'autres usages, on va dire, d'autres fonctions. Donc vous êtes un vrai spécialiste de tout ça, et je suis ravi de vous recevoir pour qu'on évoque pendant quelques minutes en fait le combattant du futur et votre vision en fait de cette collaboration entre l'intelligence artificielle, l'homme, etc., etc. Mais avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on revienne sur ce mondial de l'armement, Eurosatory, qui a ouvert ses portes donc hier au salon de Villepinte. Et à cette occasion, l'industriel Thales, que vous connaissez bien, nous a exceptionnellement ouvert les portes de l'usine qui fabrique son radar Groundmaster, un radar de précision demandé par les armées du monde entier. On écoute le reportage de Nathan Cocampo et après, on écoutera votre réflexion là-dessus.
Je suis à Limours, sur le site de production de Thales, qui produit les radars ultra performants Groundmaster 200 et 400. C'est une salle un peu particulière, je vais tout vous expliquer. Dans cette chambre totalement hermétique, les antennes de Thales tout juste assemblées sont enfermées, testées pendant une semaine. Une sonde se déplace et mesure le signal émis pour corriger les petits écarts de production. Éric Marceau, responsable de la stratégie radar chez Thales.
La précision doit être extrême, et donc le but de ces cônes, ici, va être de capturer toutes toutes les réflexions éventuelles qu'il pourrait y avoir.
L'antenne paramétrée est ensuite intégrée à ces modules, sorte de conteneurs de plusieurs tonnes pour former le radar Groundmaster, très demandé partout dans le monde. Thales en a déjà vendu plus de 250. Eric Hubert, directeur de l'activité radar de surface chez Thales.
Nous sommes passés d'une cadence de production de 1 par mois à plus de 2 par mois, avec l'objectif d'atteindre prochainement une capacité d'une trentaine dans l'année.
Dernière étape avant la remise aux clients, les Groundmasters sont testés en conditions réelles à l'extérieur sur ce même site près de Paris. Yves Descourvières, responsable du marketing produit.
Le radar est capable de voir des avions qui sont au-dessus de Bordeaux, donc à peu près à 500 km. Il y a énormément de caractéristiques à vérifier, la précision, la portée, etc. Mais également sa capacité à résister à du brouillage militaire.
Drones, missiles, avions de combat, à l'arrivée, rien n'échappe au Groundmaster, un radar qui apprend aussi au fil du temps avec de l'intégration d'intelligence artificielle.
Voilà, ce Groundmaster que vous connaissez bien, Philippe.
Bien, oui, oui.
Vous êtes un peu l'un des papas de ce radar ?
Bah, de toute la partie hyperfréquence, oui, à l'intérieur, effectivement, on avait introduit des nouvelles technologies pour le rendre plus performant, comme ça a été dit dans le reportage. C'est vraiment un outil extrêmement précis. Hein.
Voilà, détecter un avion ou un objet qui vole à 500 km, mais... c'est incroyable, c'est difficilement compréhensible d'ailleurs. Comment on arrive simplement avec des ondes à détecter tout ça, c'est fou.
Oui.
Alors aujourd'hui, vous êtes président de NAE, le Normandie Aéro-Espace, et vous êtes avec nous évidemment pour parce que vous devez être à Eurosatory à peu près tout le temps.
Tout le temps.
Oui. J'imagine, à Villepinte. Merci d'être venu nous voir d'ailleurs ce soir. Effectivement, vous êtes un peu au cœur de cette actualité, avec notamment l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que l'IA est en train de bouleverser plein de secteurs. Ça fait un moment qu'elle est dans la défense. Mais aujourd'hui, vous vouliez nous en parler, je crois, parce que l'IA est en train de bouleverser aussi ce secteur-là.
Bah, ça bouleverse, oui, bien sûr. Mais la première étape, c'est d'avoir déjà des systèmes des capteurs. On a vu le radar, par exemple. L'IA commence à rentrer aussi dans les radars.
D'ailleurs, il y avait un porte-parole qui expliquait que l'IA améliorait, justement.
Bah, bien sûr, c'est ça. Mais il faut au départ déjà un très très bon capteur. Et notre première étape, et c'est ce qu'on voit sur les photos que vous avez présentées tout à l'heure, c'est que il est important de mettre des capteurs extrêmement précis. La principale menace aujourd'hui pour nos forces, ce sont les drones, hein, et on voit en Ukraine l'utilisation des drones, l'efficacité des drones. La première étape consiste d'abord à mettre des capteurs qui sont capables soit de détecter les drones, soit de les neutraliser. Et donc ça, c'est pour la partie défensive. Et puis pour la partie offensive, il faut aussi pouvoir utiliser les drones sur des terrains pour les missions. Alors des drones à la fois aériens, bien sûr, mais aussi des drones terrestres. Et une fois qu'on a fait ça, effectivement, c'est toute l'intelligence artificielle qui va permettre de conduire les missions. Parce que aujourd'hui, c'est encore piloté par, je dirais presque à la main, par les opérationnels. Demain, il faudra qu'effectivement les drones soient capables de se reconfigurer, de choisir leur mission, de gérer le temps. Et ça, l'IA va pouvoir, bien sûr, apporter une aide extrêmement efficace.
Mais l'IA, dans l'armée, la défense, ça fait des années que ça existe, en fait. C'est un peu comme l'aviation.
Oui, mais ça ne s'appelait pas l'IA.
Non,
ça,
voilà.
C'était pas l'IA.
C'était voilà. Quoi, les algorithmes?
Ouais, c'est des algorithmes de traitement de signal.
Voilà. L'IA générative arrive aussi dans le monde de la défense.
Va arriver, oui. Arriver. Oui, tout à fait. Oui, parce que il faut de l'apprentissage. Si on prend un radar, par exemple, aussi performant qu'il est, il a aujourd'hui un certain nombre de formes d'ondes pour. Ouais. On peut très bien imaginer. Alors, je suis plus dans les secrets puisque je suis plus en activité, mais on peut très bien imaginer que l'IA permettra de choisir des formes d'ondes de plus en plus adaptées pour améliorer la précision.
Tout ça grâce à l'IA générative.
Voilà, c'est le radar qui choisira lui-même, qui testera, il dira tiens, celle-là elle est mieux, je continue de perfectionner et ça donnera encore des performances beaucoup plus...
Et beaucoup plus rapidement, parce que là, effectivement, c'est l'humain qui teste. Là, demain, si c'est l'IA générative, ça ira beaucoup plus vite.
Ça se fait, effectivement, presque instantanément.
Ouais, c'est ça qui est fou. Parlez-nous de votre vision du soldat du futur, parce que c'est très intéressant. Il est évidemment hyper géolocalisé, il détecte les menaces par drone, parce qu'aujourd'hui, vous le disiez, le drone est une menace.
Oui, tout à fait.
Il ressemble à quoi, ce soldat qui est présenté, justement, à Eurosatory?
C'est un soldat connecté. hein, connectés, parce qu'on le voit bien, il y a besoin d'interopérabilité entre les équipements et tous les nouveaux équipements, que ce soit les avions, les drones, les frégates, les sous-marins, tout le monde se parle.
Et tout le monde est connecté, on va dire, dans une bulle.
Dans une bulle, voilà, c'est ça. Alors, bon, bien sûr, il faut très fortement sécuriser les transmissions, ça fait partie de la complexité.
À chacun sa bulle.
Voilà, chacun sa bulle, exactement. Et puis le soldat, quand on voit aujourd'hui déjà les soldats, le poids des équipements qu'ils embarquent, voilà, si on veut leur remettre encore des outils supplémentaires, il faut que ça ne pèse pas lourd. Et donc c'est toute la difficulté. Et justement, à Rossatori, là, avec les startups de NAE, on a proposé de faire des démonstrateurs pour mettre en évidence des innovations pour le soldat. Je vais vous prendre un exemple. Mm-hmm. Le soldat est équipé d'un gilet pare-balles. Aujourd'hui, personne n'a d'information s'il a été touché ou voilà. Donc là, l'idée, c'est de mettre des capteurs avec des quartz à l'intérieur dans les plaques du gilet, et pour être capable de, si une balle touche le gilet pare-balles, ça va émettre un écho, et donc on va capter cet écho, et le soldat va pouvoir le transmettre par des boîtiers de télécommunication au centre des opérations, qui saura qu'un soldat a été touché. Et donc, après, prendra la décision de l'évacuer éventuellement.
C'est intéressant. Parlez-nous aussi de ces valises qui permettent de faire plein de choses, et notamment de rester connecté dans n'importe quelle situation.
Voilà,
ça
exactement. On a fait une valise dans laquelle il y a plusieurs systèmes de communication qui fait une bulle sur le territoire qu'on veut explorer, et qui est capable, grâce à cette mallette, de piloter des drones terrestres, des drones aériens, des soldats. Tout est interconnecté, et ça permet donc au chef de section de parfaitement voir la situation opérationnelle.
Une valise de lutte anti-drone aussi ?
Oui, et tout à fait. Parce que les drones sont une menace très forte.
C'est dingue comme le drone devient, on va dire, l'objet dans le monde de la défense et de la défense et de l'armement, un objet incontournable aujourd'hui.
Mais il y en a des milliers.
C'est incroyable.
J'ai discuté justement avec un des concepteurs de cette plateforme, DroneXTR, et il disait qu'ils ont mesuré 150 000 vols en quelques semaines. Quoi. C'est phénoménal, et la plupart ne sont pas autorisés, hein, c'est des vols non autorisés, et donc l'objectif, c'est de, un, les détecter, de pouvoir les localiser de façon extrêmement précise, et ensuite éventuellement de les neutraliser, pas en brouillant la liaison entre le pilote de drone et le drone, de façon à ce qu'il ne puisse plus être en opération.
Tout ça est déjà fonctionnel ?
C'est en phase de démonstration.
D'accord.
Et donc on a pu le présenter au directeur de l'AID, on a vu énormément de monde venir sur notre stand NAE. Oui. L'objectif est le ministère des Armées met des challenges qu'ils appellent COMA, fait par le Battle Lab, et donc on va présenter ce projet au Battle Lab, de façon à pouvoir le tester en opération. En conditions réelles. Et le gros avantage, c'est qu'après, on va avoir le retour des utilisateurs, des militaires, qui vont nous dire, ben voilà, ça c'est bien, là il faudra augmenter un petit peu comme ça. Et donc, on va pouvoir perfectionner cette valise.
C'est passionnant. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé par le plateau de Tech & Co. On pourrait vous écouter des heures nous parler de toutes ces innovations technologiques. Ancien de chez Thales, donc, et président de NAE, le Normandie Aéro Espace. Et on peut peut-être vous croiser à l'Eurosatory dans les jours
bien
qui
sûr.
Viennent. Merci beaucoup.
Merci.
Direction tout de suite la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
N'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin.
Merci, Philippe s'en va, vous voyez, on est en direct, tout se sait, et Willem est arrivé entre-temps, voilà, c'est le ballet des talents dans Tech & Co.
Et François en chef d'orchestre.
Oh là là, c'est gentil, il ne manque plus que les baguettes.
Absolument.
Willem Gay, qui est journaliste Tech & Co, alors l'Apple Watch sauve des vies, on le sait, mais il y a quelques jours, Willem, un Américain de 44 ans, a été alerté par sa montre d'un emballement cardiaque, et il a pu rejoindre l'hôpital le plus proche avant que la situation ne devienne critique. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé vraiment, Willem ?
Eh bien, François, c'était une banale partie de hockey sur goudron, hein, de street hockey, comme le disent les Américains, entre un fils et son père, lorsque ce dernier est pris d'un mal de tête fulgurant et d'une douleur à la poitrine. Pompier de profession, Travis Chalmers pense alors à une simple grippe, mais son état de santé se dégrade au fil des heures. Son Apple Watch lui indique alors qu'il souffre de fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque qui accélère le cœur et le fait battre de façon irrégulière. Et c'est à partir de ce moment que l'ancien pompier se rend compte de la gravité de la situation.
Parce qu'il était pompier, donc il devait se douter qu'il y avait une situation d'urgence.
Il a donc tout de suite regagné l'hôpital, et c'est là où les médecins lui ont annoncé que l'une de ses artères était complètement bouchée et que son état de santé était en passe de s'aggraver. L'Apple Watch lui a donc sauvé la vie.
Alors ce qui est impressionnant, c'est que ce n'est pas la première fois que cela arrive, ça.
Absolument, François, l'année passée, déjà l'Apple Watch avait sauvé la vie d'une Américaine puisqu'elle avait détecté une embolie pulmonaire. Et c'est grâce notamment à la ribambelle de capteurs que possède la montre connectée d'Apple qu'elle est capable de diagnostiquer finalement ces porteurs. Mais du côté des médecins, eh bien, on reste vigilant car ces appareils ne doivent pas remplacer le diagnostic médical puisqu'ils ne sont tout simplement pas à 100% fiables. Mais on peut s'attendre dans les années à venir à avoir des capteurs plus précis sur le marché et à avoir donc des appareils connectés plus précis qui rendrait les diagnostics plus précis, encore une fois. Mais une chose est sûre, rien ne remplacera un bon vieux stéthoscope de notre médecin.
Ouais, on se rend compte quand même que l'Apple Watch sauve des vies, alors peut-être pas au quotidien, mais très 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 souvent. Merci beaucoup Willem.
Avec plaisir.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Pour en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à lire l'article qui vous attend donc sur le site de Tech & Co. On va parler maintenant du PC. Le PC qui est en train d'être complètement boosté, ce marché du PC, grâce à l'intelligence artificielle, et on en parle avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
Et j'accueille David Rozio sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir David.
Bonsoir François.
Directeur mondial de la catégorie système personnel pour les entreprises chez HP. Voilà, HP, l'un des mammouths, on va dire, de l'informatique, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'aube d'une révolution dans le marché du PC. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous allez nous expliquer tout ça, David, parce que vous baignez dedans. Mais c'est vrai que les PC, maintenant, intègrent, comme on le voit avec les smartphones, l'intelligence artificielle, avec l'aide de Microsoft, de Copilot, etc. Et puis surtout, il y a tout l'intérieur, en fait, les entrailles du PC qui changent, avec de nouveaux entrants, comme Qualcomm, etc., etc. Expliquez-nous ce qui est en train de se passer.
Alors effectivement, c'est une révolution, actuellement, qui est en train de se passer dans le domaine du PC. Et ce qui est en train de se passer, ça a été déjà plus ou moins annoncé en début d'année. On a lancé un certain nombre de produits sur le marché qui intègrent ce qu'on appelle des NPU, Neural Processor Units, qui ont été intégrés dans les PC et qui permettent de faire tourner localement les modèles d'intelligence artificielle. Donc là, il y a un certain nombre de nouveaux produits qui ont été lancés en première étape et il y a toute une roadmap qui arrive avec un certain nombre de produits qui vont intégrer des nouvelles technologies, notamment une rupture technologique, comme vous l'avez évoqué, avec Qualcomm, qui arrive sur le marché et qui permet d'apporter dans ces PC avec de l'intelligence artificielle, de répondre plus rapidement, on va dire, et localement aux modèles d'intelligence artificielle, d'apporter un peu plus de sécurité aussi par rapport aux données locales, puisqu'on pourra faire tourner ces données localement sur le PC, dans le modèle d'intelligence artificielle localement, mais aussi en fait d'apporter de l'autonomie sur la batterie notamment, qui est un vrai problème aujourd'hui sur les architectures de PC standard, qui permettra d'apporter une vraie qualité en fait, et qui est exigé aujourd'hui par les clients.
Excusez-moi, je vous coupe, mais c'est vrai que c'est ce qui pêchait, en fait, l'autonomie. Alors même s'il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits, quand on comparait un MacBook ou un MacBook Air avec un PC, excusez-moi, je cite la concurrence, mais parce que c'est vrai que c'était flagrant, il y avait une grosse différence quand même d'autonomie, etc., d'endurance, de puissance même. Là, c'est en train de changer tout ça.
Alors, c'est en train
de vous rattraper, en fait, Apple, ouais. On est d'accord.
Il y a déjà un certain nombre de points qui ont déjà été améliorés sur les batteries, sur les PC, même dans l'architecture x86, dans lequel on a amélioré un certain nombre.
Mais là, on va encore plus loin.
Et on intégrait d'ores et déjà l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Là, on va encore plus loin, effectivement, la technologie basée sur ARM avec Qualcomm, qui va permettre.
Qui est la technologie, d'ailleurs, d'Apple avec les Mac.
Qui est la technologie d'Apple.
Légèrement différente, mais c'est la même structure.
C'est la même structure, effectivement, mais qui permet, grâce à ça, en fait, et grâce à l'utilisation du Neural Processor Unit localement, de consommer moins d'énergie, de faire tourner en fait ce type de processeur plutôt que le processeur central, et donc d'apporter en fait l'autonomie où on voit où on va avoir sur nos PC jusqu'à 26 heures d'autonomie.
26 heures.
Tout à fait.
Incroyable. Mais en fonction.
En fonction, exactement. En fonction, et on peut aller. Je sais qu'un des points majeurs aujourd'hui que les clients demandent, notamment dans le monde professionnel, c'est l'utilisation dans les conférences téléphoniques, de pouvoir l'utiliser sur une durée relativement longue. Et ça, c'est très consommateur que ce soit utilisé sur du Zoom, sur du Teams.
Bien sûr, parce qu'il y a la caméra, il y a de la transmission.
Et là, on sait qu'on s'engage sur du 12 heures d'utilisation dans ce type de conférence téléphonique.
Alors qu'avant, on était à combien ?
Ça peut varier, ça dépend aussi bien sûr des configurations dans le monde professionnel.
Mais dans le haut du panier, on était à quoi ?
On est plutôt sur des heures entre 5 et 6 heures.
Ouais, voilà, donc on double en fait l'autonomie, mine de rien. Hein. C'est incroyable.
Ça, c'est une vraie rupture technologique par rapport à cette, ouais, à cette architecture.
Finesse aussi, légèreté, ça bouge ça ou pas ?
Alors, finesse, légèreté, ça bouge, ça va rester dans la continuité, parce qu'aujourd'hui, les PC évoluent. On a sorti le produit sur la base de Qualcomm qui fait 1,35 kg. On est le plus léger des ultramobiles aujourd'hui sur Qualcomm et le plus performant. Et donc, on a vraiment un produit ultra fin avec un design assez...
Et tout ça sous Windows 11.
Exactement. Donc l'intérêt, c'est que le lancement a été fait en collaboration aussi avec Microsoft, qui a lancé en fait donc ce qu'ils ont appelé Copilot Plus, qui est on va dire leur standard associé d'un PC qu'on appelle chez HP Next Gen et IPC, donc qui va vous permettre avec un certain niveau de trillion d'opérations par minute, donc le nombre d'opérations par minute en trillions, qui est de plus de 40 TOPS.
Donc ça, c'est des mesures en fait de puissance.
Des mesures de puissance et qui permettent en fait donc d'apporter en fait la puissance nécessaire pour faire tourner le modèle d'intelligence artificielle localement. Et donc Microsoft a lancé Windows on ARM, qui est la possibilité d'avoir Microsoft Windows sur une plateforme d'architecture.
Et si demain j'achète un PC sous Qualcomm, j'ai mes habitudes, mon Word, tous mes logiciels, etc. Voilà, tout marchera comme avant.
Donc ça a été toute la grande question en fait qu'un certain nombre de gens en fait se posaient. Est-ce que la portabilité des applications va se faire ? Est-ce que tout va fonctionner ? Aujourd'hui, l'engagement aussi bien de Microsoft que l'engagement de Qualcomm que l'engagement d'HP aujourd'hui fait que on va supporter le maximum d'applications forcément, et qu'aujourd'hui les retours qu'on a d'ores et déjà des clients qui ont testé sont très positifs sur ce sujet.
Mais c'est quoi, c'est 80%, 90, 99?
Moi, je pense pas qu'il y ait de pourcentage, ça va dépendre en fonction des applications de chacun des clients, mais majoritairement aujourd'hui on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui existaient dans le passé qui ont été résolus. La problématique avec Chrome, la problématique avec Microsoft Edge qui utilise Chromium, ce genre de choses a été résolu, quoi.
Est-ce que le prix change avec ces nouvelles technologies ?
Alors, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, il y a forcément un premium associé sur les prix en fait des produits qui arrivent. Néanmoins, la volonté et la logique, en tous les cas, nous dans notre map, c'est de pouvoir intégrer un maximum de ce type de technologie dans nos produits de plus en plus, ce qu'on appelle mainstream. Aujourd'hui, nous, on commence avec un produit plutôt premium, donc qui aura forcément un prix qui sera pas forcément le premier prix entrée de gamme.
Mais on sera à combien à peu près ? On a une idée déjà ou pas ?
On l'a annoncé aux États-Unis déjà à 1699 $.
D'accord.
Donc c'est un produit qui reste relativement cher, on va dire, par rapport à un type de produit forcément mainstream, mais ça reste un produit en tous les cas qui est ce qu'on appelle construit depuis le départ, en tous les cas sur l'architecture avec Qualcomm, et qui présente aujourd'hui un design.
Mais à terme, tout ça va baisser, bien évidemment. L'idée, c'est que peut-être que dans un an ou deux, tous les PC seront AI, quoi.
Voilà, à terme, c'est que le marché va évoluer. Aujourd'hui, on estime, d'après un certain nombre d'études, que plus de 60% du marché va être composé de PC à base d'intelligence artificielle d'ici 2026-2027. Donc on imagine qu'avec le volume, forcément, ça va devenir dans le modèle mainstream. Néanmoins, il y a toujours un premium qui est toujours associé à cela. On verra comment les choses évoluent en fonction de l'adoption en fait, des clients.
Voilà. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est comment Intel va réagir à tout ça, parce que c'est quand même, pour l'instant, un peu le grand perdant de toute cette histoire. On n'a pas le temps d'en parler parce que on arrive à la fin de cette émission, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est vrai qu'il faut un rebond pour Intel pour que, voilà, ils reviennent dans la course, mais je sais qu'ils ont déjà prévu une roadmap de processeurs.
Ils sont déjà très engagés, ils ont déjà des NPU d'ailleurs intégrés.
Oui, mais ça change quand même. Enfin, le paysage technique des PC est en train de changer de manière assez importante.
C'est une vraie révolution, et on est tous partie prenante, et on espère que tous nos clients le seront aussi.
Eh bien, on va découvrir tout ça. Là, ils arrivent quand, ces PC ?
Donc aujourd'hui, en fait, on a lancé depuis le mois d'avril les PC à base d'Intel avec qui intègrent les processeurs.
D'accord.
Et on a lancé en fait depuis le 20 mai notre.
Donc il est disponible d'ores et déjà.
Et il va arriver en France physiquement début juillet, disponible chez nos partenaires revendeurs professionnels.
Merci beaucoup David Rodio. Merci.
Merci à vous.
Directeur mondial de la catégorie système personnel pour les entreprises chez HP. Pour terminer ce Tech & Co ce mardi soir, un vrai plaisir que de vous retrouver. Bien évidemment, on sera là demain mercredi, en direct à la radio, à la télé dès 20h, et les replays, les podcasts de cette émission qui vous attendent dans quelques minutes. Portez-vous bien et à demain avec plaisir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.